société d'héritiers.
Mais un héritage, ça peut être un fardeau. C'est pas toujours une bonne nouvelle.
Bonjour à toutes et à tous, toujours un bonheur de vous accueillir dans le temple rieur du Gai Savoir. Chaque après-midi, Zoom Zoom Zen, c'est deux heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, sans aucun rapport avec le fait que ma grand-mère que j'embrasse va sur ses 101 ans, on va zoomer sur la notion d'héritage. J'étais chez le notaire ce week-end afin, comme il dit pudiquement, d'anticiper les choses, et quelle ne fut pas ma surprise de trouver parmi les héritiers de mamie Quentin, lui. J'avais pourtant dit à ma mère de s'en méfier comme de la peste, qu'il était une version miniature et maléfique de Christophe Rocancourt, mais visiblement, elle ne m'a pas écouté. Il va donc falloir partager entre nous, les enfants héritiers légitimes, plus le gigolo de maman, mais aussi avec l'État, qui va nous ponctionner à travers les fameux droits de succession. Et pendant qu'on se plaint, certains économistes vont plus loin, estimant que l'héritage étant par nature injuste, qu'il creuse les inégalités déjà insoutenables, il faudrait carrément l'abolir. Tant qu'on y est, pourquoi pas mettre tous nos biens en commun et chanter Kumbaya pieds nus autour d'un brasero comme chez les communistes, s'exclamait en conférence de rédaction Cyril Lacarrière, notre rédac-chef filloniste, choqué par cette idée subversive qu'on puisse un jour interdire l'héritage. Alors, entre interdire l'héritage et ne pas taxer suffisamment l'héritage, il y a toute une palette qu'on va examiner aujourd'hui en compagnie d'un économiste pour qui il faut néanmoins faire quelque chose, car nous vivons dans une société d'héritiers. Alors, c'est quoi une société d'héritiers? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Peut-on encore devenir riche en France si nos parents ne le sont pas déjà? Pour Quentin, oui, il suffit d'être malin. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Je sais ce que vous faites.
Elle m'aime bien, votre grand-mère.
Oui, mais ma grand-mère, carrément.
Après la mère, la grand-mère.
C'est vrai que j'ai un petit côté gendre idéal qui lui plaît.
Oui, ça doit être ça. Bonjour, bonjour André Masson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. André, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous venez de publier L'héritage au 21e siècle, toutes les réponses aux questions que vous vous posez aux éditions Odile Jacob. Vous allez tout nous expliquer, notamment comment se débarrasser d'un pic-assiette qui essaierait de s'inviter dans un testament. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, des camarades de longue date, qui ne seront pas lésés, je peux vous le dire, au moment de l'héritage, puisque j'ai prévu de leur léguer cette sublime tasse dromadaire que Ahmed Sparrow m'avait rapportée de Marrakech, tasse qui a vu du pays puisqu'elle venait elle-même de Chine, ainsi que ce livre « Splendeur et misère des groupies ». Alors évidemment, il a été légèrement annoté, comme vous le voyez, par Pierre Courade, mais il reste en très bon état. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour. Je veux bien les groupies, mais dédicacées par Pierre.
Ouais, évidemment.
Je vais prendre le mug, moi.
Oui.
Oui, vous avez raison,
j'ai
c'est un
même,
bon choix. À vos côtés, André, elle, à son décès, elle laissera derrière elle un véritable mystère. Et on pense d'avance à Charlie, Chapel et Théodora, ces trois petites filles, qui, le 12 mars 2091, se retrouveront, lors de l'inventaire de la succession Mariani, devant un objet non identifié, mi-toaster électrique, mi-yaourtière. T'as déjà vu mamie se servir de ce truc? Non, et toi, Chapel? Ah, moi non plus, de toute façon, j'ai jamais vu mamie en cuisine, sauf pour attraper la bouteille de gin qu'elle cachait dans le placard à biscuits, sacré poche-tronne, mémé Marianoche. Et non, Manon, vos petits-enfants ne comprendront jamais qu'ils ont hérité de ce qu'on appelait dans les années 2020 un air fryer. En attendant...
Bon, ils seront en parfaite qualité. Ah
bah, ils seront pour le coup jamais utilisés.
Comme neuf.
Il vous reste bien des choses à vivre, notamment cette chronique dans laquelle vous nous brosserez tout à l'heure le portrait de l'autre personne à suivre.
Oui, alors il est prince, il est anglais, il est roux aussi, et depuis qu'il a trouvé l'amour, eh ben, il a renoncé à son titre royal pour plus de liberté. Bah, c'est vrai.
Bah, ça c'est du teasing, effectivement.
Mais c'est très, très joli, les roux.
Face à vous, André, il cherche à s'inviter dans la succession de ma grand-mère, alors même qu'il sera un jour multimilliardaire par son oncle, le sémillant Spencer Lui, sur le yacht duquel il passe tous ses étés. Quentin, avant que je vous traîne en justice pour abus de faiblesse, racontez-nous, les passants que vous avez croisés dans la rue, ils en pensent quoi de l'héritage en France aujourd'hui?
Je suis allé enregistrer ce matin à côté de la maison de la radio. Qu'est-ce qu'on pense du concept de société d'héritier dans le 16e arrondissement de Paris? Vos réponses dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Sociologiquement, c'est un peu anglais, biaisé peut-être dans le 16e. Vers 16h30, un quiz en forme d'avertissement à Quentin. Non, un gros héritage ne fait pas forcément le bonheur. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte de tous ces héritiers que l'argent n'a pas sauvé de la dépression, voire du suicide. Oui, j'insiste bien, afin qu'il lâche la grappe à ma mère. Juste avant 17h, nous serons rejoints par celle qui a reçu le talent en héritage, Rosa Burstein. Juste après 17h, alors là, Manon rougira, car nous recevrons Guillaume Néry, son athéiste préféré.
Oui, il n'est pas là.
Vous emballez pas, effectivement, il sera en duplex avec nous depuis Nice. Mais d'abord, c'est notre thème de cette première partie, André Masson, puisqu'on va pas mal tourner autour de cette expression. Qu'est-ce qu'on appelle déjà, qu'est-ce qu'on entend par société d'héritier?
Une société d'héritiers, c'est une société où l'héritage des biens matériels, c'est-à-dire financiers et immobiliers, joue un rôle très important dans la constitution des fortunes et plus largement la réussite sociale.
Donc tout se joue là, en France, si on, en gros, non, si nos parents sont pas riches.
Ça, c'est la définition d'une société d'héritier. Et depuis au moins deux siècles, on l'oppose à une société méritocratique. Où là, c'est le talent, l'effort, les capacités, la motivation qui font qu'on puisse arriver en haut de la hiérarchie sociale. Avec tout ce qui se pose, si vous voulez, il y a une citation, ce sera la seule chose que je lis, d'un sociologue Christian Baudelot, « Sous la masse croissante des patrimoines immobiliers et financiers qui se transmettent, ce sont bien les valeurs méritocratiques, fondements de nos sociétés démocratiques qui sont menacées. » Voilà.
Et c'était en quelle année qu'il dit ça ?
2011.
Ah oui, donc c'est récent. Donc on a un moment de bascule.
Ouais, c'est ce qu'il pense, mais il définit comme ça une société méritocratique. Donc, chez Durkheim, il faut quand même qu'il y ait du mérite social. C'est-à-dire que derrière la réussite personnelle, on contribue positivement à la société. Ce serait aussi bien. Voilà.
Un vinyle de Michel Sardou, un préservatif homemade en boyau de mouton et un paquet de gitane sans filtre. Voilà ce que Cyril, notre rédacteur en chef, compte léguer à ses gosses. Afin, je le cite, qu'ils aient la base, mais pas trop non plus. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu.
Alors racontez-nous, vous qui avez enquêté pour l'occasion, racontez-nous l'héritage, d'où ça sort ?
Des Romains, car ce sont eux qui ont formalisé le concept de la succession, avec d'une part la succession légale et de l'autre la succession testamentaire. Le père de famille, le pater familias, avait désormais le droit de pouvoir décider qui hériterait de quoi ? Attention quand même, pas le droit de leur faire une Johnny à leurs enfants, comprendre, pas le droit de déshériter ses descendants directs. Au Moyen-Âge, c'est du côté des Allemands que le droit des successions s'est codifié, sans surprise à la faveur des hommes. Le principe était simple, il fallait partager l'héritage de manière strictement égalitaire entre les fils. Et puis, bien sûr, l'Église est venue mettre son nez dans cette affaire. Elle encourageait ses ouailles à léguer leurs biens aux plus démunis, et à l'Église, évidemment. Dans le système féodal, la succession, c'est aussi une histoire de fils et de fils aîné, puisque c'est lui qui hérite de tout, ou presque.
Et si on revient plus près de nous, maintenant ?
Eh bien, grâce à la Révolution française, ça en a été fini des privilèges féodaux, et on a enfin introduit des principes d'égalité. Terminé aussi le droit d'aînesse, supprimé en 1792. C'est aussi avec la Révolution qu'est apparue la première taxe pour les transmissions en ligne directe, 1% seulement, pas énorme, mais c'est un début. Et puis en 1804, le Code civil établit les règles d'héritage qui existent encore aujourd'hui, par exemple la part minimale destinée aux descendants directs. Alors, de quoi hérite-t-on aujourd'hui ? L'héritage est-il un facteur aggravant de la fracture sociale ? Faut-il plus taxer, voire tout prendre ? Est-ce que c'est injuste d'hériter ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. André Masson, pourquoi cette question de l'héritage, elle est brûlante aujourd'hui en France ?
Elle est brûlante parce que c'est une société dans laquelle on n'a plus de croissance, comme avant. C'est une société où, comme on dit un peu rapidement, le travail ne paie plus. Donc, il y a cette envie de toucher un héritage, quoi. Puis on regarde ce que touchent les autres, etc. Et puis, on est une société très individualiste, où on a les comparaisons interpersonnelles qui jouent un grand rôle. Alors qu'avant, on devait être plus une société de classe, même si maintenant c'est un peu masqué, où en fait, on était heureux. On partageait une solidarité au sein de sa classe. Alors que là, maintenant, on se compare aux autres. Si les autres ont et pas soi, on trouve ça injuste.
Mais comment s'est passé ce retour en arrière, ce retour à une société d'héritiers comme, ou de rentiers comme au 19e siècle ? Comment on a abandonné un petit peu l'esprit méritocratique ? Comment ça s'est fait ?
Mais, si vous voulez, la comparaison, c'est la société des 30 Glorieuses. Vous avez 5% de croissance par an, où en fait même les sociologues ne parlent plus d'héritage. Parce que on peut justement, une société tournée vers l'avenir, il y a une croyance dans le progrès, dans la prospérité, il y a la paix qui arrive en 1962, il y a le plein emploi, donc on pense y arriver par soi-même, et arriver donc au sommet de la hiérarchie sociale par ses propres moyens.
J'ai vu dans le Nouvel Obs, c'est un truc incroyable, nous étions retombés au même niveau qu'avant-guerre, quand les politiques redistributives n'existaient pas.
Non, ça c'est faux.
Ça. Ah, ça c'est faux.
Ça c'est faux. Alors ça c'est la nouveauté qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est revenu à la société de 1900, de la Belle Époque et tout ça ? La réponse est non.
Ah, ouf quand même !
La réponse est non, en particulier parce qu'on a un État social qui s'est beaucoup développé. Je ne vais pas citer de chiffres, hein, je pense que ça n'intéressera personne, mais cet État social fait qu'on a des retraites et tout. À la limite, pour les classes modestes, la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, si on ne touche pas d'héritage, on peut quand même s'en sortir. En 1900, c'était beaucoup plus difficile. Donc on avait des espérances d'héritage et on suait très fort, on s'angoissait pour savoir si on allait vraiment les toucher. Et donc on ne revient pas à cette société-là, mais par rapport à la société des 30 Glorieuses, on est plus du côté d'une société d'héritiers.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Les droits de succession sont-ils trop élevés en France ou bien au contraire, faut-il plus taxer, voire abolir l'héritage? Zoom cet après-midi sur cette société d'héritiers dans laquelle la France a basculé. Je rappelle le livre de notre invité André Masson, L'héritage au XXIe siècle. On va poser la question la plus choc, la plus provoque aussi. Est-ce qu'il faut abolir l'héritage?
Oui, alors ça c'est une question qu'on pose souvent. Et c'est une mauvaise manière de prendre le problème, puisque c'est une provocation actuellement, puisque les droits de succession sont de plus en plus faibles et de plus en plus impopulaires. Pas en France exactement, mais globalement, c'est bien la tendance qu'on a. Et donc dire qu'on va abolir l'héritage...
Aucun politique ne proposerait cette décision.
On la met toujours devant, mais ça ne s'est fait que dans un seul pays, la Russie, de 1918 à 1922, c'est-à-dire 6 mois après la révolution d'octobre. Et ça n'a pas marché. Je pense que dans les années 50-60, où l'héritage avait un poids plus faible, ça aurait été davantage possible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont accrochés à leur fortune, ça serait impossible.
Alors, quelle est la question qui se pose, selon vous qui avez étudié la question de l'héritage à fond, quelle question intelligente on pourrait se poser au sujet de l'héritage si on voulait faire une réforme?
Alors, si on veut faire une réforme sur l'héritage, il faut partir des urgences, actuellement. Vous avez une urgence politico-idéologique, pour parler un peu de manière pédante, qui est que la suppression des droits de succession serait aujourd'hui la réforme la plus simple, la plus populaire. En plus, elle a été expérimentée dans certains pays, apparemment,
ça se passe
sans
bien.
Dommage. Et donc, c'est la réforme idéale pour beaucoup de gens, et même des députés. Le seul problème qu'elle pose, vous voyez bien, c'est la baisse des recettes.
Ah bah oui, la baisse des recettes, ce moment, c'est quand même un peu compliqué.
Justement, il rapporte combien, ces droits de succession, aujourd'hui, en France?
En 2023, il rapporte 17 milliards. Ah oui, entre parenthèses, on dit que la France est un pays où il y a un blocage, j'ai lu ça dans les journaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut, alors qu'on prendrait, si on taxait les gros héritages, on laisserait les autres tranquilles. Donc la France est un pays arriéré, ancré sur la terre, avec tous les mots d'argot, vous savez, blé, oseille, fauché, etc., avoine et tout ce qu'on veut. Bon, juste un petit codicille, en pourcentage du produit intérieur brut, aujourd'hui, c'est la France qui taxe le plus. 0,74%, c'est pas beaucoup.
Mais c'est le plus.
Mais c'est le plus de tout l'OCDE.
Quentin ?
Est-ce que l'héritage est aujourd'hui en France la première cause des inégalités de richesse, pour vous ?
Oui et non, pour répondre comme un Normand. non, dans le fait que si vous prenez les inégalités de patrimoine entre les gens qui n'ont pas hérité, ou même qui n'ont pas d'espérance d'héritage, donc qui ne sont pas concernés par le phénomène, elles peuvent être très importantes. Elle s'explique assez mal par l'âge, le diplôme, le revenu, etc. Donc, si vous voulez, les variétés de profils d'accumulation individuelle sont énormes.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une société aussi de décourager des gens qui n'ont jamais d'héritage et qui partent découragés dès le début?
Alors, l'autre aspect, c'est que l'héritage joue un rôle clé dans le sommet de la hiérarchie des fortunes. Si vous voulez, pour le dire bêtement, les riches sont souvent des enfants de riches. Et inversement, d'ailleurs, les enfants de riches sont souvent riches. Mais ça, c'est pas nouveau. L'héritage a été toujours inégal. Ce qui est nouveau, c'est le poids de l'héritage, c'est-à-dire, si vous voulez, les flux annuels de donations et d'héritage qui ont énormément monté depuis 1980.
Et vous donnez un chiffre dans les enfants d'ouvriers ne sont que 30% à recevoir un héritage.
Il est faible.
C'est un pourcentage qui...
Mais si vous voulez, la masse des transmissions... c'est un indicateur quand même, et on est passé, mettons, donnons un chiffre, de 8,5% du revenu disponible en 1980 à 20% aujourd'hui. Donc ça cavalait beaucoup plus vite que la richesse nationale. Donc on devient, de ce point de vue-là, une société d'héritiers.
Mais on est tous soumis à des droits de succession aujourd'hui ?
Non. Vous avez en fait droit, il y a un seuil d'exemption de 100 000 enfants par parent, et de 100 000 francs,
parce que 100 000
euros,
enfants...
100 000 euros par parent et par enfant. 100 000 euros, donc, d'exemption. Et surtout, c'est lorsque vous héritez pas de vos parents, mais en ligne indirecte, que vous payez beaucoup.
Selon l'INSEE, alors les chiffres, ça date de 2018, seulement 14,6% des parents transmettraient des héritages supérieurs à 100 000 euros et seraient donc soumis à cet impôt sur les
successions. Oui, à peu près. Ceux qui payent des droits, c'est 15 à 20%. 15 à 20%, pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte de ceux qui n'ont pas d'enfants. Et là, ils payent.
Ah oui, c'est juste.
Si vous voulez, c'est trompeur le chiffre français, bien qu'il soit faible, des recettes successorales, puisqu'en fait, actuellement, les successions en ligne indirecte, c'est-à-dire pas aux enfants, aux petits-enfants, c'est 10% du total, mais c'est plus de la moitié des recettes successorales. Donc, si vous voulez, quand il y a des réformes qui veulent dire que pour la nièce, tout ça, on va diminuer les droits à payer, on va être gentil, ça coûte cher.
Ça coûte cher, in fine. Tonton, le yacht, il est estimé à combien déjà ? Demandez Quentin à son tonton lors de leur dernière croisière au large de la Sardaigne, inquiet des éventuels frais de succession qu'il aurait payé sur un bien dépassant les 10 millions d'euros. T'inquiète, gamin, il est immatriculé au Panama, tu paieras zéro. Le rassura immédiatement son tonton, le rusé Spencer, lui, qu'on embrasse et qui nous écoute.
Oui, mais il n'existe pas.
Il est en mer.
Vous avez bien un tonton qui a un yacht. Très bien. Quentin, voilà, la réalité, la vérité
c'est
est
une
enfin
barque,
révélée.
Oui, voilà.
Quentin, en attendant, l'accident bête, la noyade après un cocktail trop arrosé dans le jacuzzi, vous continuez d'arpenter les rues pour faire réagir les gens à notre thème du jour. Alors l'héritage, j'imagine que ça divise pas mal.
Je marche pas loin du métro Passy à Paris, quitte à parler d'héritage, autant aller voir ceux qui ont quelque chose à léguer, mais la rue est souvent plus surprenante qu'on l'imagine, et à l'image de ce monsieur, chemise jaune à carreaux, veste beige, des lunettes aux branches argentées, il me rappelle mon prof de maths de 5e. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous ?
Ronan. Je suis animateur internet pour les seniors.
Vous avez le contact de Mathieu Noël ?
Je ne connais pas Mathieu Noël.
Mathieu Noël, lui, il pense que quand on envoie deux documents à imprimer, les feuilles vont se mélanger. Est-ce que vous pouvez lui expliquer que c'est pas possible, ça ?
Non, parce qu'il y a un ordre, d'envoi, effectivement, de l'impression. Effectivement, c'est pas possible que les deux feuilles sortent. Il peut imprimer, effectivement, tranquillement.
C'est une vraie histoire.
Alors, je n'y crois pas, Quentin. Je demande les diplômes de ce monsieur. À mon avis, les documents peuvent se croiser.
Non, c'est validé par un professionnel. Je pense qu'on ne doit plus parler de cette histoire dans l'open space. Parlons plutôt de la...
société d'héritiers. Mais un héritage, ça peut être un fardeau. Si on hérite de dettes aussi, et si... voilà.
Vous avez hérité ?
Non, pas encore. Et il y aura probablement des charges, il y aura des impôts fonciers, voilà.
Vous voulez dire que c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, un héritage ?
C'est pas toujours une bonne nouvelle, exactement. C'est pas toujours une bonne nouvelle.
Je laisse Ronan et là, bim, un auditeur fan de l'émission. Comme dirait la plus modeste d'entre nous, Marie de Breuer, on ne peut plus faire de maître. Mais en plus, il me suit, évidemment.
Je suis juste curieux du mot du jour, du coup.
Ah, t'es curieux ?
Ouais, quel est-il ?
C'est quoi votre prénom ?
Hugo.
Il le veut, le voilà. Je demande à Hugo de découvrir le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Société d'héritiers. Donc la ligne de départ n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est ça qui handicape un peu la méritocratie, je pense.
T'as hérité, toi ?
J'ai hérité pour l'instant de... économiquement 20 ou 25 000 euros pour acheter un appart de ma mère. Mais sinon, par contre, j'ai hérité de... bien d'autres choses, de la curiosité, de m'intéresser au monde, à ce qui se passe dans notre société, aux actualités, biberonner à France Inter. Donc voilà, c'est aussi un héritage qui est important, ça.
Je lui demande s'il se sent privilégié d'avoir acheté, par exemple, à Paris, alors qu'il a tout juste la petite trentaine, quand il compare et qu'il en parle autour de lui.
L'important, je crois que c'est d'en avoir conscience, parce qu'en fait, c'est le hasard aussi de la naissance, c'est-à-dire on décide pas d'où on est, et on a un certain... c'est comme un jeu de cartes, on a un certain jeu de cartes entre les mains. Donc ensuite, c'est comment on s'en sort, et juste si on a un bon jeu de cartes, par hasard en fait, juste par chance d'être né au bon endroit, dans la bonne famille, bah il faut juste avoir conscience de cette chance, et après savoir ce qu'on veut en faire.
L'image du bon jeu de cartes me plaît. Est-ce qu'elle plaira à ma prochaine rencontre ? Anne-Marie, 86 ans, courbée par la vie avec son caddie à roulettes derrière elle, est-ce qu'elle pense que nous sommes dans une...
société d'héritiers ? Globalement, oui.
Pour acheter, par exemple, il vaut mieux ça ?
C'est sûr. Parce que si vous n'avez pas un démarrage important, par exemple, vous n'achetez sûrement pas à Paris.
On achète où alors ?
Oh bah, Trifouiller les oies.
Trifouiller les oies, bah non, que l'on trouve à côté.
Danger ?
Non, mais non, Trifouiller, c'est pour dire la campagne.
Vous êtes vraiment le pire, Quentin.
Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur que je vois prêt à enfiler son casque de moto. Il a posé sur sa selle, les lunettes aviator, la doudoune sans manches bleues, les cheveux blancs. Je m'approche de lui en disant que je travaille pour France Inter. Quelle horreur, me répond-il. Wow. Je ne suis pas susceptible. Vous avez quel âge, Olivier ?
J'ai 78 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Merci.
Qu'est-ce que vous avez entre les mains ?
J'ai une Harley Davidson, Road King, de quelques années.
Alors Olivier, dernière réponse à cette question. Vivons-nous dans une France...
société d'héritiers ? Non. C'est normal, quand on a travaillé toute sa vie, de pouvoir en transmettre une toute petite partie, celle qui n'est pas volée par l'État, à ces quelques personnes qu'on a élevées.
Alors on en vient à cette phrase de « on est avec une cuillère d'argent dans la bouche », quoi.
Mais comme on commence par en donner 50% à l'État largement, sans parler que ceux qui transmettent à leurs enfants sont ceux qui aussi payent des impôts, conclusion, on donne beaucoup à l'État et on paye beaucoup pour ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme vous le dites.
Elle est mal passée, la dernière déclaration.
Visiblement, oui.
Je lui demande s'il veut transmettre un héritage, lui.
Oui, j'espère que je lèguerai un petit quelque chose, si on ne m'a pas tout pris entre-temps. En fait, c'est très extrêmement volatile. On espère qu'on pourra.
À qui vous allez, Olivier, léguer cette belle Harley ?
À personne, parce que personne dans mes enfants n'est en mesure de conduire ça, donc c'est un plaisir furtif et personnel.
Si vous cherchez un pilote, oh là moi j'ai mon permis moto.
Très bien, bravo. Bah, je sais pas si vous savez quel est le poids de ce véhicule.
Elle doit être aux alentours de 300, Noël.
350 à vide.
Oh, j'ai pas l'air comme ça, mais...
Vous êtes fort ? Bon. Ouais, mais il faut avoir des grandes jambes quand même.
Que j'aime rire avec ceux qui ont de l'argent. Qu'il vienne d'un notaire, d'une histoire familiale ou d'un coup de bol, l'héritage reste un révélateur de ce qu'on transmet et de ce qu'on tait. En France, on n'est pas tous avec les mêmes cartes, le même jeu de cartes dans les mains, mais pour filer la métaphore version Monopoly, certains héritent quand même carrément de la banque.
Merci Quentin, je vous lèguerai ma trottinette. Ce sera un véhicule
électrique
à votre mesure. Non, non, pas électrique,
ah
comme
oui,
ça, vous
poussez.
C'est vraiment
l'ancienne. Je vous imagine, pas du tout sur une trottinette.
L'héritage au XXIe siècle, c'est le livre de notre invité André Masson cet après-midi. Vous venez d'entendre ses réactions sur l'héritage dans la rue. Elles sont contrastées, comme on pouvait l'imaginer. C'est marrant ce dernier témoignage qui nous dit que l'État nous prend tout. On est quand même très loin de la réalité. On est très loin de la réalité en ce qui concerne l'héritage.
Bien sûr, je peux reprendre les Ronan. Ronan, il dit que l'héritage est un fardeau. Mmh. Il a le droit de le refuser.
Oui, c'est vrai. Les dettes, on peut les
refuser. Il n'a qu'à le refuser. Ouais. Et donc, ou parce qu'il y a trop de dettes, ou parce qu'en fait, dans d'autres cas, il veut se faire par lui-même. Mmh. Ou parce qu'il a reçu une éducation puritaine et que l'héritage, c'est une garçonnière cachée de son père, etc., etc. L'héritage
oui,
peut toujours être
prêt.
Oui, voilà.
Mais qui les rembourse, les dettes, quand on les refuse ?
Eh bien, personne.
Elles sont apurées.
Par exemple, si un héritage est négatif, c'est-à-dire que les dettes sont supérieures à l'actif, ouais. Eh bien, c'est perdu. D'accord. C'est nous qui remboursons.
Eh oui, c'est la société dans son ensemble.
Voilà. Alors, Hugo, lui, il est bon, Hugo. Hugo, lui, dit qu'il faut avoir les bonnes cartes. Mais il montre bien que les bonnes cartes, ça n'est pas seulement l'héritage matériel. Donc, la société méritocratique doit soi-disant sélectionner les meilleurs. Ce sera plus juste et plus efficace que ce... Bon, mais les meilleurs, d'abord, c'est qui ? Comment on mesure ? C'est ceux qu'ont fait les grandes écoles ? C'est ceux qu'ont une réussite financière par eux-mêmes ? Bof. Et surtout, c'est biaisé par ce qu'on appelle les transmissions immatérielles, le capital social et culturel reçu des parents, qui n'est pas sonnant et trébuchant, mais qui peut jouer un rôle énorme. Et ça, ça n'est pas taxé. Et ça, c'est même pas régulé. Et ça, ça reste. Donc la gauche méritocratique, parfois... se rencontrent des problèmes parce qu'elles croient que si on est dans une société sans héritage matériel, tout va bien.
Vous dites, forcément. Vous dites dans le livre que même Marx, il n'était pas pour l'abolition de l'héritage.
Non, Marx, non, parce qu'il pensait que c'était mettre la charrue avant les bœufs et que ce qui comptait déjà, c'était de produire une société dans laquelle les moyens de production soient correctement distribués et que jouer sur l'héritage, c'est trop tard. Il faut jouer en amont. Donc, si vous voulez la version moderne, ce serait plutôt Piketty, un impôt annuel sur la fortune. Si vous voulez qu'il n'y ait pas trop d'inégalités d'héritage, taxer en amont. Anne-Marie. Anne-Marie veut un capital de départ.
Vous voulez encore réagir sur Anne-Marie ?
Oui, Anne-Marie, la vieille dame, Anne-Marie.
Oui, Anne-Marie, 86
ans. Anne-Marie, elle dit que c'est un capital de départ. Oui et non. On hérite maintenant en pleine propriété des parents à près de 60 ans. Quand la vie n'est pas finie, mais elle est déjà faite. Mmh. Donc voilà. Et donc, dernier point, le plus intéressant, puisque je vous ai coupé, c'est Olivier, évidemment. Olivier, c'est quoi ? Il y a une très... Les positions sur l'héritage sont très idéologiques. Et un des critères qui sépare, c'est est-ce que je me place du côté de l'épargnant, du parent transmetteur, ou du côté de l'héritier. Si c'est l'épargnant ou le parent transmetteur, c'est l'épargne que j'ai accumulée pour mes enfants adorés, la chair de ma chair. C'est un don gratuit. Pas taxé, ça. On ne peut pas taxer. Bon. Alors, c'est une affaire de famille. L'État n'a pas pénétré la famille, donc il n'a pas s'immiscer dans la famille. Donc, on ne taxe pas. Si j'ai une entreprise, je me suis battu pour l'entreprise, ça a été un sacerdoce, ça ne va pas revenir dans le fonds d'État là, sous une taxe de 30%, ça ne va pas du tout. Donc, je ne taxe pas. Si je regarde du côté de la génération bénéficiaire, Il y en a qui touchent, d'autres pas, c'est un revenu mérité, il n'y a rien fait pour, ça crée des inégalités énormes qui vont se reproduire de génération en génération. Il faut taxer. Ça dépend où on se place.
France Inter, Zoom Zoom Zoom. Mathieu Noël.
Il est trop tôt, bien sûr, il est encore si jeune. Pourtant, un jour, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, passera à l'arme à gauche. Non. Ayons donc d'ores et déjà une pensée pour ces enfants du soleil, comme il les appelle, qui, n'ayant jamais été officiellement reconnus, n'auront que leurs yeux pour pleurer en chantant ces mots prophétiques de Nana Mouskouri. Et oui, au pays des cigales, elle savait, pour Cyril. Elle savait pour Cyril et sa double vie. Qui sait, c'est peut-être elle, Nana, la mère de Panis et Hugolin. Bref, jouons avec ceux qui ont reçu un peu plus que l'amour en héritage. Jouons au Zoom Zoom Test. Un Zoom Zoom Test qui est là.
Oui,
parce qu'il n'était pas sous ma main.
Ah oui.
À la rencontre de ceux qui n'ont pas hérité que d'un quad, d'un vieil iPhone U2 et d'une paire de baskets On Running encore sous blister. Non, dans ce quiz, on va évoquer des héritiers qui ont touché le pactole, mais à qui ça n'a pas forcément réussi. Je vous présente tout d'abord Roger Tiberville, qui, malgré son nom, n'est pas un personnage de la saga OSS 117, mais un ancien magnat de l'immobilier francilien décédé en 2024 à Créteil, sans qu'on sache s'il y avait un lien entre le décès et le fait d'habiter Créteil. Certainement, dira Manon Mariani. Bref, quand il casse sa pipe, Roger est plein aux as, puisque sa fortune est estimée à un quart de celle de Christophe Beaugrand, le copain de Quentin qu'on recevait hier. Mais voilà, Roger n'a pas d'enfant. Alors d'après vous, que va-t-il faire de toute cette moula ? Il va demander à être incinéré avec ses actes de propriété parce que Roger est égoïste.
Oh, pas mal.
Il va le léguer à une commune qui s'appelle comme lui, parce que Roger est con, où il va s'acheter un héritier et tout lui donner, parce que Roger est un original.
B
pour vous, il va trouver une... C'est une bonne réponse, ah oui. Désolé, alors bien sûr, on ne respecte plus le suspense en région, on balance le jingle. Bonne réponse de Manon Mariani.
Que...
Sacré Roger, qui avait donc sa logique bien à lui, léguer sa fortune à une asso défendant une cause qui lui tient à cœur, très peu pour lui, il a trouvé bien plus pertinent de léguer tout son blé, en l'occurrence 10 millions d'euros quand même, à une commune juste parce qu'elle portait le même nom que lui. Allez hop, 10 plaques pour la commune de Tiberville dans l'Eure. Une belle histoire, mais attention, que les habitants de la commune de Luis dans le Babugé ne nourrissent pas trop d'espoir, Quentin préférera se faire incinérer avec ses liasses plutôt que de filer le moindre bifton à des inconnus.
C'est faux.
Mais c'est vrai. C'est
des,
très vrai.
Des liasses de 5 euros.
Mais il n'a pas payé d'impôts là-dessus ?
Ah ben si, probablement. Ah mais non, mais vous inquiétez pas, je donne pas les détails.
Ah oui.
Mais direction à présent les États-Unis, où les successions sont souvent mouvementées à la recherche du fils d'un milliardaire célèbre ayant fait fortune dans le pétrole. Fiston qui va cramer la moitié de son héritage pour réaliser un film d'horreur basé sur ses cauchemars. Un peu comme si Manon utilisait la moitié de ce que lui lèguera un jour Thierry Mariani pour financer un film sur Angers.
Avec le gros Bershka, là.
Un projet qui coûtera des millions à ce fils d'eux, qui mettra une dizaine d'années à aboutir. Ce passionné de pellicule, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, l'indispensable Andrew Getty, le talentueux David Fincher ou le légendaire George Lucas.
C'est purée.
Donc pour vous, George Lucas hérité d'une forte somme qu'il aurait ensuite investie dans un film d'horreur sur ses cauchemars d'adolescent.
Bah oui.
C'est une très mauvaise réponse. C'était la réponse. Ah, vous connaissez pas Andrew Getty ? Mais enfin,
je connais que lui, moi.
Tapez son nom sur Allociné, vous tomberez immédiatement sur rien. Car Andrew est ce qu'on appelle prosaïquement un loser. Héritier de la fortune pétrolière Getty, il a investi 15 ans de sa vie et plusieurs millions de dollars pour produire The Evil Within, un film d'horreur inspiré de ses cauchemars d'enfance. Relations exécrables avec les acteurs, dépassement de budget, perfectionnisme excessif. Il décédera des suites de son addiction à la crystal meth avant la fin du montage. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, puisque le célèbre critique de cinéma Brian Collins qualifiera le film, je cite, de désastre sans précédent. Mmh. Et pourtant, Brian Collins avait vu Taxi 5. Mais attention, direction la Grèce. Destination privilégiée de la marquise de Breuer, qui possède sur Antiparos une petite bicoque de 400 mètres carrés, où elle festoie chaque été avec son copain Emmanuel Chin et sa copine, je dirais même sa BFF, Atina Onassis. Un soir, alors qu'elles étaient sous Ouzo Red Bull, Atina lui confie quelque chose d'incroyable. Non pas qu'elle avait un jour aidé Thomas Pesquet à régler un iPad dans les coulisses des Enfoirés, mais que sa mère, Christina, héritière d'Aristote Onassis, possédait un yacht dont la piste de danse pouvait se rétracter pour former une piscine.
Oh, sympa.
Qu'elle avait l'habitude de payer des gens pour qu'ils soient ses amis. Ou qu'elle avait rencontré un Français qui se faisait passer pour un agent du FBI alors qu'il s'occupait du portique de sécurité de l'ambassade américaine.
AB.
AB. Quentin.
Ah, il n'y a que deux.
Bah, AB,
bah,
elle a choisi.
Si tu veux le portique. En...
Ah non, je serai A, moi. Que A.
Ce sera A, mais c'est pourtant une bonne réponse de Manon. Ah. C'était les réponses A et B.
Pourquoi ?
Triste tour d'ivoire.
Je
comme
pas,
quoi,
c'est logique,
comme je le répète souvent à Quentin qui chine ma mère, hériter d'une fortune colossale n'est pas forcément une chance. La preuve avec cette malheureuse Christina Onassis. Elle naît en 1950, ses parents divorcent en 1960. Son frère meurt en 73 dans un accident d'avion. Sa mère en 74 d'une overdose, suivie de son père en 75. Côté cœur, elle divorcera 4 fois avant de succomber elle aussi à une overdose à seulement 37 ans, si riche et si seule qu'elle payait donc un couple d'acteurs 30 000 $ par mois pour qu'il l'accompagne partout.
C'est horrible.
L'occasion peut-être de saluer Polo, le meilleur ami de Quentin, qui lui émarge à 700 € par mois, le max que Quentin puisse mettre. Enfin,
je le vois plus assez, Polo.
Pour terminer, vous le payez pas assez surtout. Enfin, pour terminer sur une note plurieuse, un peu de musique.
Ma passion.
Un banger que Cyril met à fond à Ibiza dans son cache-caille de location, chemise blanc du Nil ouverte jusqu'au quatrième bouton, bracelet de cheville en coquillage, sur son tatouage White Lives Matter. Avec ce son, je me sens libre, je suis à deux doigts de marcher pieds nus, loco loco. Un banger, mais de quelle héritière célèbre ? Lily Rose Depp ? Paris Jackson ? Ou Paris Hilton.
Ça a fusé du côté de Paris Hilton.
Ça sonnait un peu.
Mais vous ne connaissiez pas cette chanson ?
Mais oui, mais je sais pas. Remettez-moi
Paris, Paris Hilton. Paris Hilton destiné à être richissime et pas que pour.
Ça se passe bien.
Pas que pour.
Manon a fait la WC.
Ça tout va bien, Manon ? Vous voulez un verre d'eau ? Parce que je peux vous transmettre le verre d'eau, mais en revanche, il peut très bien tomber sur la console.
Vous allez le renverser, donc.
Paris Hilton, qui a eu une petite surprise, puisque grand-papi, Baron Hilton, voyant que les générations suivantes ne le méritaient pas, a finalement légué 97% de toute sa fortune à sa fondation caritative dans le Baba Paris Hilton. On espère que la chanson lui aura rapporté des droits d'auteur. Défaite de Paris, mais victoire de Manon Mariani. Victoire.
Merci.
Très net. Très
net. Moula, y a du
toujours
et
là.
Je crois que c'est une Moula première. Exemple, c'est le jour des premières avec André. C'est la première fois qu'un invité applaudit votre victoire, même. André, décidément, très sympa. Faut-il repenser l'héritage en France ? L'économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur justement de l'héritage au XXIe siècle chez Odile Jacob, André Masson est toujours avec nous dans Zoom Zoom Zen. André, on en parlait ici la semaine dernière. Bill Gates a décidé de donner la majorité de sa fortune avant de mourir. Autrement dit, ses enfants n'hériteront pas de tout son argent. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond actuelle, au-delà du cas de Bill Gates, de limiter au maximum l'héritage qu'on lèguera à ses enfants ? Parce que finalement, on sent bien que c'est peut-être pas une très bonne chose.
Alors ça, c'est possible aux États-Unis, c'est pas possible chez nous, puisque les enfants sont réservataires. Si vous avez deux enfants, chacun touchera au moins un tiers. Il vous reste un tiers de ce qu'on appelle la quotité disponible, je m'excuse du jargon. Et si je veux léguer cette quotité disponible à vous, Mathieu, vous allez payer 60% au-delà d'un seuil très minime.
D'accord, donc ça
c'est pas
possible.
C'est pas énorme ce que je vous laisserai, donc ça,
ça tombe bien.
Mais donc, aux États-Unis, par contre... On peut, il y a liberté testamentaire, et donc on peut faire ce qu'on veut. Et alors, si vous voulez faire du caritatif, comme chez nous, si vous avez deux enfants, vous pouvez le faire que sur un tiers, la quotité disponible.
Oui,
mais par contre, si vous prenez une fondation reconnue d'utilité publique, RUP, elle peut ne payer aucun impôt.
Ah, donc il y a quand même des moyens pour essayer de mettre le maximum d'argent dans une fondation ou...
Ça, ou l'assurance-vie.
C'est-à-dire, développer.
L'assurance-vie, en fait, sort de la succession. Le capital est aliéné et tout. Ouais. Donc, si j'ai placé suffisamment tôt, avant 70 ans, en assurance-vie, c'est la soupape à la liberté de tester chez nous. Donc, l'assurance-vie, je peux vous la léguer. Elle a un régime successoral plus avantageux. Et surtout... En ligne collatérale ou indirecte, puisque là, vous êtes un tiers à ma famille.
Alors, faisons ça, André, cette assurance-vie. Oui. Quentin ?
Au lieu d'attendre un décès, est-ce qu'il faudrait inciter les parents à transmettre de leur vivant ? C'est une question que vous posez dans le livre. Est-ce une société d'héritiers, oui, mais assez âgée, puisqu'on on va avoir des soixantenaires, septuagénaires.
Qui héritent.
Voilà, on hérite maintenant à près de 60 ans. Donc ça, c'est la grande différence avec la belle époque 1900 ou même l'époque de Balzac 1820, où on héritait jeune. Là, on hérite âgé pour deux phénomènes. D'abord, l'allongement de l'espérance de vie. Et chez nous, en tout cas, c'est assez récent. C'est ce qui est arrivé aux conjoints survivants. Au début, Cyril est parti, mais au début du Code civil, en fait, le conjoint survivant n'existait pas dans les successions.
Ah bon ?
C'est que les enfants seulement ?
Il n'y avait que les enfants.
Et donc, même si un père voulait donner à sa femme, il ne pouvait pas.
Mais même par un testament ? Même par un
non, il pouvait, très difficile.
D'accord.
Et alors, en 2001, le conjoint survivant devient un héritier à part entière.
C'est
en 2007, il ne paye plus de droits.
Ah oui.
Donc ça change tout, si bien qu'on devient propriétaire de la fortune des parents en pleine propriété, qu'à la mort du second parent, donc à près de 60 ans.
André, comme je vous tiens et que vous êtes un invité formidable, je ne peux pas ne pas vous poser la question, qu'est-ce que vous proposeriez-vous comme réforme des droits de succession? Ça serait quoi votre système idéal?
On ne peut plus maintenant dire seulement, avoir comme récit justificatif, que ça réduit l'inégalité des chances. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'héritage matériel, c'est la partie émergée des transmissions familiales qui sont d'éducation, etc. Ouais. Ça ne suffit pas. Donc il faut un récit justificatif fort pour justement contrer le fait que la réforme la plus populaire serait de supprimer les droits de succession. Or, actuellement, ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est dans une société d'héritiers, mais moins qu'à la belle époque. Les baby-boomers, moi, vont mourir dans les deux décennies qui viennent. Ils sont nombreux et ils ont beaucoup de patrimoine. Donc on va avoir un grand transfert énorme qui va aboutir à des gens de 55-60 ans. Et c'est ça, ce transfert qu'il faut canaliser si on ne veut pas vraiment devenir, dans 20 ans, une société d'héritiers. Et c'est donc là-dessus qu'il faut essayer, en essayant d'avoir une société qui se retourne vers l'avenir et d'utiliser l'épargne des ménages et la transmission pour les investissements d'avenir, donc écologiques, productifs, numériques ou sociaux.
Le reste est dans le livre « L'héritage au XXIe siècle ». André Masson, merci. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Et je vous présente le prince Harry. Il a 39 ans, il est britannique et il incarne une figure assez rare, celle d'un descendant royal qui a tout fait pour cesser de l'être. Harry grandit dans l'ombre de son frère aîné William, l'héritier du trône. Lui, c'est le suppléant, comme il se surnommera lui-même plus tard dans ses mémoires. À 12 ans, il vit très très mal la mort de sa mère, Lady Diana. Du coup, les années qui suivent sont très chaotiques pour lui. À l'adolescence, Harry devient le bad boy officiel de la famille royale. Il fréquente les boîtes de nuit. Oula, je vais m'étouffer. Il fréquente les boîtes de nuit de Londres, fume du cannabis dans la résidence de son père. Il se bat avec des paparazzi. Et en 2005, c'est la provocation de trop. Pour une soirée costumée, il se déguise en soldat nazi. On s'en souvient, avec un brassard, avec une croix gammée. La photo publiée en une du Sun déclenche une indignation internationale. Le jeune prince est envoyé en urgence dans un centre éducatif sur la Shoah. Après cet incident, Harry prend la mesure des attentes qui pèsent sur lui. Il s'engage donc dans l'armée, il part en mission en Afghanistan, devient pilote d'hélicoptère. De retour, il fonde ce qu'il a appelé les Invictus Games, une compétition pour les vétérans de guerre blessés. Mais c'est en 2016 que tout bascule lorsqu'il rencontre Meghan Markle lors d'un blind date. L'actrice américaine métisse, féministe, divorcée, incarne tout ce que la monarchie redoute. Les deux se marient en 2018. Très vite, les tensions apparaissent. Meghan est attaquée dans les tabloïds, elle est comparée à Kate, suspectée, rejetée, l'institution royale. Elle reste assez silencieuse. Harry est traumatisé parce qu'il a vécu avec sa maman, prend une décision historique. Il renonce à ses titres et à ses fonctions royales. En 2020, avec Meghan, il quitte le Royaume-Uni pour la Californie, le Mexit, comme la presse a surnommé cet exil. Là-bas, ils y vivent le rêve américain, du moins au début. Ils signent des contrats avec Spotify, avec Netflix, et leur projet tourne en boucle autour de leur rupture justement avec la monarchie. Le documentaire Harry and Meghan bat des records sur Netflix, ses mémoires Spare se vendent à des millions d'exemplaires, mais le public se lasse. Spotify coupe même les ponts avec eux. On les accuse de victimisation, de trahison, notamment en Angleterre, où ils sont devenus persona non grata. Harry est de plus en plus isolé de sa famille, William ne lui parle plus, Charles, son père, ne lui accorde qu'une demi-heure lors de leur dernière entrevue, malgré l'annonce de son cancer. En visite au Royaume-Uni, il ne dort même plus dans les résidences de la famille royale. Harry a voulu fuir sa cage dorée, mais à quel prix ?
La suite sur Netflix, non, même pas.
Mathieu Noël sur France Inter.
Il nous est revenu de week-end hier à la fois ronchon et rougeau, comme Cyril, quand William oublie qu'il ne digère pas la coriandre. Ceux qui ont déjà vu ici Cyril Lacarrière s'emporter contre un type ayant foutu de la coriandre sur son plat savent ce que ça veut dire. Pierre Courade était hier aussi exécrable que Manon Mariani Fin de la phrase. Pierre, en espérant que vous ayez de meilleure humeur aujourd'hui, Pierre, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, attention.
Ah, j'ai hérité de la mauvaise humeur des gens de Bellegarde sur Valserine. L'héritage, justement, qui était notre thème du jour. Nous entrons dans une société d'héritiers, d'après notre invité, l'économiste André Masson, toujours franc. Il nous a expliqué que l'héritage joue aujourd'hui un rôle plus important dans la constitution des fortunes et dans la réussite sociale. La société d'héritiers s'oppose donc à la société méritocratique. Et même si André Masson estime qu'on peut encore s'en sortir en France sans héritage, l'héritage grâce au système redistributif, la tendance peut provoquer des inégalités, moins de croissance, le sentiment que le travail paye moins que la rente. Pour y pallier, on pourrait penser à taxer de manière plus forte les droits de succession, mais les Français y sont opposés. Pourtant, la taxation actuelle ne touche que les gros héritages et rapporte chaque année près de 17 milliards d'euros aux caisses de l'État. Mais ce qu'on a compris à travers cette émission, c'est que l'héritage était plus qu'un sujet fiscal, c'est un sujet moral. Ainsi, pour réduire cette tendance vers une société d'héritiers, notre invité propose d'alourdir la fiscalité sur l'héritage, sauf si les parents souscrivaient à des placements de long terme pour financer par exemple la transition écologique. On a aussi appris qu'on hérite en moyenne à 60 ans aujourd'hui en France, pile l'âge auquel les enfants de Quentin pourront profiter de son héritage constitué de l'intégrale des vinyles de Nana Mouskouri.
Quentin, vous êtes troublé.
J'adore cette chanson, je ne la connaissais pas, je la découvre.
Vous la connaissiez pas?
Bah non, comme ça, vous la connaissiez pas. Un standard, un standard de Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri,
un banger, je dirais.
D'accord, mais ça...
un banger.
ne perdons pas de temps sur Nana Mouskouri, même si on l'embrasse. Rosa, vous nous interprétez parfois des personnages de grandes bourgeoises dans cette émission, si bien qu'on ne peut que soupçonner. Seriez-vous, vous-même, une héritière?
Eh bah, ben, pas du tout, Mathieu. J'ai juste du talent, voilà. Et de l'humilité. Car même si j'ai naturellement l'élocution d'une personne bien née, sachez que c'est sans la thune qui va avec. J'ai reçu un héritage culturel nul, genre des valeurs quoi, genre des documentaires de 6 heures, mais flemme, elle est où la maison de campagne à Porquerolles où on va cet été, bordel? Mes parents séparés sont pauvres, si je m'en sors juste en changeant leur couche sans rembourser leurs dettes, je serais déjà bien contente. Au moins, on n'aura pas à se bagarrer avec ma sœur pour qui veut garder quoi. Bah, je te laisse les bouquins d'Engels de papa et je garde la collection de bleus de travail de maman pour son légendaire look de lesbienne des années 70. Dommage qu'elle s'en tienne aux tenues. Ma mère, en prenant de l'âge, devient de plus en plus misandre et c'est réjouissant. La dernière fois, elle m'a dit « Quand je vois mes copines obligées de faire une liste de courses à leur mari de 70 balais qui savent toujours pas quoi choisir au supermarché, non mais moi je te foutrais de l'arsenic dans leur compote de vieillard sénile et je te ferais un triple nœud avec leur vieille couille, oui !» Oui, maman. L'avantage quand les maris de ses copines clams, c'est qu'il y a un petit héritage à la clé. Et là, c'est jamais assez. Et pour cause, il y a les ex-femmes et les enfants, ces saloperies d'assister. Est-ce que ce sont eux qui ont fait les dernières pipes sur le lit d'hôpital? Non? Bon. Bon, en même temps, tant mieux, on n'est pas chez Morandini ici. Mais bref. Moi, j'ai plein de jeunes héritiers dans mon entourage parce que mes parents désargentés ont quand même tenu à me foutre dans un lycée de richos, histoire que je me compare et que j'ai bien les boules. J'avais un gars dans ma classe qui, après son bac difficilement obtenu, ne savait pas quoi faire. Alors ses parents lui ont acheté un cinéma parisien pour faire joujou.
Ah ouais.
Son métier, c'était de décider cette semaine, tous les jours, c'est Star Wars. Le pire, c'est que j'ai baisé avec ce gars.
Non, Rosa.
Et gros héritage ne veut pas dire
non.
Gros zizi. Maintenant, non. Bon, en plus, on est en bon terme. Hein. Lucas, il est top, ton cinoche. J'ai adoré la rétrospective David Lynch. M'en veux pas pour la chronique. Ton pénis, dans mon souvenir, était adorable. Il tenait dans un dé à coudre. On prend vite un café. En vrai, non, j'ai pas le seum. J'ai de la peine pour mes amis héritiers de gauche. Eux, pétris de culpabilité. Comme Louis, dont le grand-père était un grand mania de la presse. Après Sciences Po Paris, Louis a décidé que les médias, la politique, le droit, c'était trop facile. Il a préféré devenir patron et diriger d'une main de fer une recyclerie. Mais attention, il ne s'occupe pas des vélos cassés des bobos parisiens. Non. Avec sa meuf, Isidore de la Turne de Haute Cloque, ils sont partis dans le Perche réparer les vélos des vrais gens. Et comme ils ont acheté une grande baraque avec l'argent de papy, ils soulagent leur conscience en hébergeant régulièrement des militants d'Extinction Rébellion. Ils passent leur dimanche à gueuler « Marc, ça fait une heure que t'es sous la douche, n'oublie pas que vous êtes 17 !» Sans vouloir te commander, hein, bien sûr, et si tu peux mettre une serviette, cette fois-ci, en sortant, ça gêne un peu Isidore, la vue de ton cul poilu, tout engagé soit-il, merci. Voilà. Au final, moi je suis assez fière d'être indépendante financièrement depuis mes 20 ans, mon appart à Bagnolet, je l'ai acheté avec mes sous, bon, en tournant à l'époque dans des pubs. Imaginez le spot, une plage, un couple, la Rosa de 2011 qui espère tourner dans des films d'auteur et gagner une palme d'or, mais se retrouve à manger un burger épicé et hurler à son fiancé « Tu me rends tellement heureuse !» Nouveau Red Hot Chili Peppers, sauce tabasco, attention, c'est bon, mais c'est violent, McDo. Voilà. Donc je me mets pas au-dessus de la mêlée, je dis pas qu'il y a de l'argent vertueux, peut-être que je serais cette mère qui fait une donation de 100 000 balles à ses enfants tous les 15 ans pour qu'ils me pardonnent d'avoir été en tournée toute leur enfance. Mon chéri, oui, j'ai raté ton spectacle de fin d'année où tu te déguisais en sandwich au triangle, mais c'est parce que que j'avais quand même autre chose à foutre que de parler aux autres parents d'élèves ou à pire à ton père. Donc, il te plaît ton studio avec terrasse ? Alors, allez, je me donne 10 ans.
Merci, noté. Merci beaucoup. Rosa, on vous retrouve la semaine prochaine et c'est quasi complet pour votre spectacle à la Renaissance. Mais nos auditeurs peuvent vous confier leur mail sur l'onglet newsletter de votre site internet. Je mets la musique d'X-Files parce que c'est pas très clair. Donc, ils vont sur l'onglet newsletter de votre site et là, ils s'inscrivent pour être les premiers avertis lorsque vous annoncerez bientôt une nouvelle date. J'ai bon ?
Oui, c'est ça.
C'est compliqué, mais ça va marcher. Merci André Masson de nous avoir permis de mieux cerner les enjeux autour de l'héritage en France. Je rappelle votre livre « L'héritage au XXIe siècle ». D'un mot, pourquoi déshériter ses enfants, ça peut être payant aux États-Unis ?
Ouais, en France, il y a le droit à l'héritage. On le mérite, y compris si on a fait des gâteries aux vieux parents. Bon, mais c'est une notion de mérite bizarre. Mais aux États-Unis, en fait, c'est le mythe du self-made man, de celui qui s'est fait tout seul. Et dès le 19e, Carnegie disait « A man who dies rich dies disgraced », un homme qui meurt riche meurt déshonoré. Donc il doit mettre sa fortune à ce qu'il faut. Et il a été repris par Warren Buffett, je cite, « Quand on est une personne très riche, on doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent quelque chose, mais pas trop pour qu'ils ne fassent rien. »
Zoom, zoom, zen.